Radio Couleur Chartreuse a le plaisir de vous proposer une émission qui s'appelle le Prosélivre, en un seul mot bien sûr. Alors Prosélivre, c'est avant tout plein d'idées nouvelles pour lire un peu, beaucoup, passionnément, mais surtout localement. L'idée est que chaque émission vous permettra de faire connaissance avec un créateur ou créatrice littéraire. Bienvenue dans Prose et Livres pour plein de petites excursions littéraires. Donc, comme je le disais, je suis avec Estelle Dubreuil qui se définit comme illustratrice. J'y suis arrivée ce coup-là. Donc, Estelle, est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs qui tu es ? Moi, je t'ai rencontrée à Coublelire, en fait, un salon du livre des écrivains régionaux émergents. Et toi, tu as un super joli livre qui s'appelle Charles Anana, plein de couleurs. C'est de la littérature jeunesse. Alors, comment tu as eu l'idée de produire ce genre d'œuvre ?
Alors, créer un livre, écrire un livre, voir un livre en vrai que j'avais réalisé de A à Z, j'ai toujours voulu ça. J'en ai retrouvé dans mes malles d'enfant des presque aboutis, donc que j'avais fabriqué avec de la tapisserie. Donc je me suis toujours dit, un jour il faudra que je le fasse. Et là, j'ai été très contente d'avoir mené à bien ce projet, de l'avoir échangé maintenant avec les enfants. Et d'avoir trouvé un éditeur aussi, parce que c'est aussi un petit peu un petit parcours.
Bravo pour ça, hein, parce que la plupart des écrivains qui étaient là-bas, ils s'auto-éditent.
Alors j'ai essayé, je voulais un premier retour, donc je l'ai auto-édité au départ, et puis on a un petit peu, de façon un peu mégalose, besoin de vraiment aussi trouver un éditeur et se dire j'ai cette reconnaissance-là et mon livre plaît à un éditeur et peut être diffusé de façon nationale en tout cas. Parce qu'en auto-édition, c'est compliqué d'ensuite investir toutes les librairies de France et les plateformes de vente Internet. Donc j'ai été contente de ça, de pouvoir diffuser un peu plus massivement mon livre. Donc j'ai trouvé Tote, qui est une petite maison d'édition à Fontaine.
Bon, un peu de publicité, mais bon, il le mérite.
Hein. Pardon.
C'est pas grave. Et donc, si on parle de ton parcours, alors tu es née dans le Nord, tu avais une grand-mère...
Dans l'Ouest.
L'Ouest ?
Senior, oui.
Ah oui, c'est vrai.
De Sèvres.
Oui,
c'est souvent comparé au Nord, mais...
souvent, quand on est dans le sud de la France, tout ce qui dépasse la Loire, c'est le Nord. Donc, tu as grandi là-bas avec une grand-mère institutrice qui t'a initiée très tôt à la lecture. Ça a été tout de suite un coup de foudre ?
Alors, je pense pas. C'était plutôt... Alors, on va pas dire subi, mais ma grand-mère est une artiste très pointue depuis toujours, qui peint beaucoup. Donc, j'étais plutôt envahie par tout ça au départ. Elle m'a beaucoup fait dessiner. Donc, je pense que j'ai aimé ça, mais voilà, j'étais pas plus que ça là-dedans. Et puis, ça s'est vraiment proposé à moi à l'âge de 20 ans. Je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse parce que c'est ça que je sais faire aussi. Donc, mon père peignait aussi un peu, dessinait. Donc, j'ai voulu continuer aussi cette voie pour continuer le lien.
Oui, parce que ce qui m'a surpris, donc j'ai devant moi Charles Anana, le premier livre d'Estelle Dubreuil. Et donc, quand on l'ouvre, eh bien, c'est un livre pour enfants à partir de 4 ans. Donc forcément, il y a beaucoup de dessins, mais il y a quand même pas mal de textes. Et je sais qu'il y a plein d'écrivains à ta place qui se définiraient comme écrivains, à la limite pour les livres. Toi, tu tiens vraiment à ce truc d'illustratrice. Mais déjà, à la base, si tu avais une grand-mère qui était institutrice et en même temps qui peignait, il y avait l'alliance de l'écriture. Et du dessin.
Alors sûrement, j'ai par défaut écrit les textes puisque j'ai pas forcément réussi à m'associer à quelqu'un pour ça. Je l'ai pas forcément voulu non plus. Donc et puis j'ai donc fait des études d'art appliqué, j'ai appris le dessin. Je suis graphiste aujourd'hui, donc c'est mon métier autour de l'image et de l'illustration. Et c'est l'illustration qui m'a amenée ensuite à écrire, puisque petit à petit les choses se posaient. Donc il y en a qui écrivent avant et qui ensuite dessinent. Moi j'ai fait l'inverse. C'est vraiment le dessin qui m'a aidé à avancer dans l'histoire et à créer, à trouver la chute et le Oui. Et le titre, et voilà, l'ensemble s'est façonné autour du dessin, en tout cas.
Et du coup, tu as suivi un parcours professionnel, oui, dirigé vers le dessin.
Au début, j'ai essayé la cuisine, et puis au bout de un mois, j'ai appelé ma mère en pleurant, en disant non, je peux pas faire ça. Et c'est mieux comme ça, je pense. Donc, j'ai fait une école d'art appliqué à Lyon. Suivi d'une école d'illustration et de multimédia qui s'appelle Les Gobelins à Annecy. Et puis j'ai commencé en entreprise en tant que graphiste, j'ai fait de la direction artistique un petit peu en agence dans un milieu très très marketing et voilà, qui est encore mon métier aujourd'hui, mais l'illustration c'est quelque chose que j'essaye de développer, et intervenir aussi dans les écoles est quelque chose maintenant qui me tient beaucoup à cœur et qui se passe très bien, où j'ai des super retours, donc...
Tu interviens dans les écoles à quel titre ?
Alors, on fait des ateliers autour du livre. Donc, je leur lis l'histoire aussi au tout départ, parce qu'il faut qu'on apprenne aussi à se connaître. Donc, on échange comme ça, on parle du personnage, on parle des couleurs, des émotions, de comment on peut dire quelque chose à travers l'image. Et puis, surtout, très important aussi pour eux de connaître ce qu'il y a derrière un livre, comment il est façonné, comment il va naître. Donc on échange beaucoup autour de ça, du texte, du dessin, du façonnage aussi, pour qu'ils comprennent qu'il y a tout un circuit de fabrication pour un livre et que c'est un vrai objet à part entière à la fin qu'ils ont dans les mains et qu'il y a eu du boulot derrière.
Oui, parce que tu m'as dit, tu leur fais fabriquer un livre parfois ?
Alors là, dernièrement, avec les CP à Coublevis, on a travaillé on avait un tout petit peu de temps, mais une super maîtresse, donc en un jour, on a fait ça, on est parti, donc ils ont déjà dû trouver une idée, et puis comprendre qu'il faut un personnage, comprendre qu'il faut qu'il se passe quelque chose, et puis trouver des couleurs, trouver une histoire très courte, hein, mais avec un titre, et on a fait la couverture, et on a pris un joli ruban pour façonner. Finalement, le livre, en un jour, ils ont tous trouvé des supers idées. Il y a eu des titres fabuleux.
Oui, parce que du coup, je me suis renseignée sur la littérature pour les enfants. Et en fait, c'est quand même assez récent. Le premier livre destiné à un enfant, c'était Le Dauphin, les aventures de Télémaque, de Fénélon, en 1699. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Non ? Ça t'étonne pas ?
C'est même, je trouve que c'est loin, 1699.
Oui, mais c'est vrai que le domaine de l'écriture, c'était plus réservé aux adultes. Et en fait, là, on est à une époque où il y a plein d'éditeurs jeunesse qui se lancent dans une production 100% numérique. Par exemple, Goodbye Paper Edition. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que le numérique, c'est un danger pour...
Je suis assez partagée sur le sujet. Je suis quand même de la génération du livre. Je suis pas née avec Internet, mais je l'utilise tous les jours et très activement. J'ai un ordinateur dans les mains tous les jours. Je pense qu'il y a du bon et qu'il faut que si ça peut permettre aux jeunes de lire et de se tourner vers des choses littéraires ou qui font sens, c'est très bien. Ça peut être un très bon outil. Après, voilà, la limite est à donner, à savoir qu'est-ce qu'on donne à voir à nos enfants. Mais je pense que le livre reste un objet sur lequel il faut se poser et c'est important de feuilleter des pages, de sentir l'odeur d'un livre, de les toucher. Il y a tout un côté sensoriel qu'il n'y a pas. Oui. Alors après, ça, c'est mon propre ressenti, mais le sensoriel est très important dans la découverte de quelque chose, que ce soit de la musique ou une histoire comme celle-ci. Mais je trouve que le livre est un objet très important.
Oui. Et d'ailleurs, je me suis un peu creusé la tête. Je me disais, en fait, c'est pas le même vecteur pour les adultes, parce que quand on lit un livre quand on est un adulte, quelque part, ça rend aveugle. On peut dire, on a des images visuelles du coup qui viennent, et on n'est pas forcément sensible au graphisme des lettres. Et là, c'est l'inverse, en fait. On a une image et les mots viennent dessus. C'est la démarche inverse, on peut dire. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Alors, c'est ça, mais on ne met pas tout non plus. Par exemple, dans le livre, j'explique pas... Il s'appelle Charles Ananas. Je n'explique pas pourquoi il a un ananas sur la tête.
Voilà. C'est une question que je me suis posée.
C'est ça, qu'on m'a beaucoup posée. L'enfant ne se pose pas la question. Donc, il y a plein de choses qui sont assez magiques. C'est que même si on lui expose des images, il va en créer d'autres. Trouver des raisons bien à lui, donc c'est très intéressant justement de voir jusqu'où ils peuvent aller, même avec quelque chose qu'on leur impose, donc on ne sait pas pourquoi. Donc, il perd son ananas à un moment de l'histoire, on ne sait pas pourquoi. Et je ne l'explique pas, mais ça les a pas dérangés. Et c'est justement, je trouve ça bien de mettre des zones un peu obscures pour que l'imagination prenne le relais aussi.
Et comment tu procèdes? Est-ce que, alors, tu me disais que tu avais des enfants. Est-ce que ça t'aide à écrire ton livre, par exemple?
Alors oui et non, parce qu'ils sont très, très sincères quand je montre quelque chose. Mon fils m'a dit un jour, j'en ai marre, celui-là, je voulais plus en entendre parler, quoi.
Hein. D'accord.
Donc après, peut-être qu'il était un peu trop présent à la maison aussi, le livre.
Mais c'était quel livre? C'était Charles?
C'était celui-là, ah, oui, parce que j'ai fait avancer l'histoire avec eux. Alors, j'aime pas forcément ça, faire lire avant. Mm-hmm. Ça peut être déstabilisant, il y a eu des fois, je me suis dit, on arrête tout parce que l'histoire fait pas sens. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même le garder un peu tout seul jusqu'au bout et après l'exposer, je pense que c'est comme une chanson, un film.
Oui.
Mais les enfants, quand même, j'ai un bon public parce qu'ils sont sympas. Enfin, mes enfants, en tout cas, je pense que là, ils veulent plus le lire parce qu'ils l'ont trop lu. Mais...
Et est-ce que toi, ça te permet de retrouver ton âme d'enfant, de te mettre dans la peau d'un enfant?
Alors, je suis pas forcément dans le passé. J'arrive pas à... Je me rappelle beaucoup de ce qu'on m'a lu parce que ma grand-mère m'en a lu énormément. J'essaye de leur transmettre, donc je suis plutôt là-dedans, essayer de transmettre... Enfin, si ça me rappelle quand même des super histoires, donc du Tommy Ungerer ou Yves Pommeau, des choses très, très... des images très fortes comme ça qui sont restées et qui m'aident aussi beaucoup à produire aujourd'hui des références, donc ça, c'est important. Et c'est comme ça aussi que je me dis, je peux leur donner ces références.
Et est-ce que tu penses que c'est très important pour un enfant, pour son équilibre, que ses parents lui lisent justement des livres, par exemple le soir avant de se coucher?
Tout à fait. Très important parce que c'est un moment d'échange aussi, qu'on est beaucoup dans des vies très trépidantes et qu'on n'a pas le temps de se poser pour ce genre de choses qui sont assez importantes. Donc que ce soit un livre ou autre chose, mais il faut se poser avec son enfant sur quelque chose. Je trouve que c'est important, même si parfois ça devient une contrainte parfois, parce que c'est souvent... C'est tous les soirs, quoi. Mais ça dure pas longtemps. Et oui, je pense que c'est important d'être sur des choses comme ça, très légères et très... où on peut rêver ensemble. Et
est-ce que ça se fait de moins en moins, de lire une histoire à son enfant?
J'espère que non. Alors, dans les classes, quand je demande aux enfants est-ce qu'on vous lit des livres, il y a quand même beaucoup de mains qui se lèvent. Il n'y a pas toute la classe, mais il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Donc oui, je pense que... le livre passera à travers le temps et voilà. Encore.
Oui, puis dans tous les livres, je sais que j'avais vu la symbolique des contes, Blanche-Neige, etc., le petit chaperon rouge. Il y a toujours un sens caché pour permettre à l'enfant justement de s'identifier des émotions. Et là, Charles Anana, on peut dire c'est sur la perte.
Alors sur la perte, sur le... la peur et sur l'amitié, donc la fin. Voilà, il y a pas mal d'émotions. Justement, avec les enfants, on a réussi à dégager des grandes émotions un peu thématiques dans le livre, de voir comment on pouvait les retranscrire aussi graphiquement, avec quelle couleur on va parler de la colère, avec quelle couleur on va parler de la peur. Donc c'était un bon outil d'expérimentation pour parler des émotions avec eux. Voilà,
enfin, je signale que ça se termine bien. Oui. Pas de souci. Donc, il y a en même temps la solution proposée au problème.
C'est ça. Ouais.
Façon de leur apprendre qu'à chaque problème, sa solution.
On peut partager. Oui. On peut partager.
C'est très, très positif. Et là, on va faire une pause musicale avec une chanson qu'Estelle a choisie. C'est Bachoum, ma petite entreprise. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson?
Alors, parce que... mes parents aimaient beaucoup Bachoum, donc c'est un petit clin d'œil. Et puis aussi parce que c'est une petite entreprise d'essayer de faire ça et de le faire fonctionner et puis d'arriver peut-être un jour à en vivre complètement.
Oui, c'est ce qu'on te souhaite. Donc on va écouter Bachoum et ensuite on vous lira quelques passages choisis de Charles Anana.
Connais pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances, abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive. Avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, l'Asie coule à mes oreilles. Ma petite entreprise, connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre, qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Je perds le nord, qu'importe. Quand je vois se poindre les pyramides, l'Asie coule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube.
Et voilà, maintenant on va vous lire quelques extraits de Charles Lanana d'Estelle Dubreuil. Et vous avez sans doute remarqué qu'Estelle est très à l'aise au micro, en fait. Elle connaît la radio.
Pas tant que ça.
Aussi, son papa en avait une dans les années 80, donc c'était un pionnier.
Radio Nord.
Ouais, un peu de pub pour le
Pardon.
Nord. Non, c'est pas grave, elle existe encore cette radio ?
Je ne pense pas, non.
Bon. Donc Charles Lanana, je te laisse nous expliquer comment ça commence cette histoire.
Alors, c'est un personnage assez singulier qui, donc on voit, on navigue à travers son quotidien, il aime faire la fête, il aime manger de bonnes choses, donc on le voit évoluer, il a son ananas sur la tête qui lui donne une posture assez forte, il est fier de ça, et tout à coup, il rentre chez lui et il perd son ananas.
Et là, c'est le drame. Et j'ai devant moi une magnifique image de Charles Lanana tout affolé sur son vélo avec derrière lui l'océan. C'est l'océan ou la mer ?
C'est l'océan, puisqu'à Niort, on n'est pas loin.
Je suis nulle en géographie. Et une mouette, et on sent la tempête dans son cœur. Et on va commencer à lire, donc chevauchant son vélo à toute allure, Charles Lanana sentait ses jambes trembler, son cœur battre si fort. Il fallait vite retourner en ville et tout faire pour retrouver son beau, son brillant, son majestueux Anana. Lorsque Charles Lanana arriva en ville, tout le monde essaya de l'aider. Le poissonnier, par exemple, lui proposa sa plus belle écrevisse.
« Eh bien voilà, tu seras Charles Écrevisse ?»
lui dit-il. Mais être Charles Écrevisse, c'était bien trop risqué, parce que vous en doutez bien, là on le voit avec ses doigts tout rouges, il a dû se faire pincer. Et la vendeuse de fruits et légumes lui tendit à son tour un abricot bien orange, bien doux.
« Voilà, mon ami, arrête donc de pleurer et tu seras cher l'abricot !»
lui dit-elle. Mais être cher l'abricot, c'était trop ridicule, vraiment impensable.
« Prends mon chapeau !»
s'exclama le contrôleur de train. « Mais pour être Charles chef de gare, il fallait être à l'heure !» Et le gardien du zoo, quant à lui, tenta quelque chose de plus imposant, de plus tape à l'œil. Mais cette fois-ci, ce fut aussi un échec. Charles l'éléphant savait pourtant bien de l'allure, mais figurez-vous que c'était un rôle beaucoup trop lourd à porter. Et là, on a une magnifique image avec le pauvre Charles Ananas qui n'a plus d'ananas sur sa tête, qui a un énorme éléphant. Et on n'aimerait pas être à sa place. Donc, comme je disais, ça se termine bien. Et donc, merci Estelle Dubreuil pour ce voyage avec Charles Ananas. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Prose et Livres. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures au pays du livre.
Ta mère t'a donné comme prénom Salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous...